Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Pour débriefer cette histoire, me voilà donc avec vous, Pierre Chaumet. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, vous enseignez aussi le droit pénal, et parfois même, vous jouez les chroniqueurs judiciaires. Je précise d'ailleurs que vous n'êtes pas intervenu précisément dans ce dossier. Je dois dire qu'on a eu pas mal de mal à trouver un interlocuteur, parce que tous les acteurs de ce dossier ne parlent que flamand et pas un mot de français. Le bilinguisme a encore du chemin à faire hein, dans votre pays.
Ah oui, tout à fait. Donc je maîtrise très très mal cette seconde langue qui pourtant est indispensable dans mon métier normalement.
Alors premier commentaire, Monsieur Chaumet, sur la peine. 30 ans, c'est une peine très lourde pour un crime passionnel. Au fond. Et moi, je croyais qu'en Belgique, contrairement à la France, on reconnaissait l'existence des crimes passionnels.
Oui, mais on a de toute façon une forme de réflexe que je qualifierais de judéo-chrétien. On veut bien de la pitié, c'est-à-dire une peine plus modérée, mais en échange de cela, il faut des aveux, donc il faut une reconnaissance des faits, ce qu'elle s'est toujours refusée à faire. Et d'ailleurs, pour sa libération conditionnelle, il n'y a pas d'obligation sur papier de reconnaître, mais le tribunal d'application des peines qui est en charge de libérer anticipativement les gens condamnés attend la plupart du temps une forme de repentir, et s'il n'y a pas eu d'aveu, que ces aveux arrivent maintenant.
Ah oui, donc c'est la même chose qu'en France. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'exprime pas de regrets, Tintin, on reste en prison.
Oui, tout à fait. Pas nécessairement, mais en tout cas, c'est une chance et une probabilité beaucoup plus forte que si tout à coup on se remet en question.
Est-ce qu'au fond, Else Clotmans ne paie pas le max par le caractère très spectaculaire de son crime ? C'est-à-dire spectaculaire et probablement très angoissant pour les jurés. On se met à la place de la victime dans cette chute. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a ce facteur-là qui joue, mais il y a, à mon sens, un autre facteur, c'est le facteur sophistiqué du crime. Hein, parce que vous pouvez très bien prendre un couteau et puis aller chez quelqu'un et l'assassiner. Ici, manifestement, ça implique une forme de réflexion et de recherche des éléments les plus efficaces pour que ce parachute donne l'impression de fonctionner et en réalité est saboté. Puisque la plupart du temps, les parachutistes sont des gens qui vérifient, bien évidemment, vu les conséquences potentielles, leur matériel jusqu'au dernier moment.
Mais là, elle n'avait pas de raison, puisque elle l'avait sans doute elle-même plié, rangé et préparé pour le prochain saut, et qu'elle ne pouvait pas imaginer que son ami Else Clotmans était capable de le trafiquer.
Non, c'est clair, mais en fait, vu de l'extérieur, puisque, comme vous l'avez dit, je n'étais pas acteur de cette procédure, mais j'ai toujours un petit regard d'expert en matière, vu de l'extérieur, on a un peu l'impression qu'elle a été condamnée par défaut de mieux. Parce qu'effectivement, elle a toujours nié. Il y a des choses très embarrassantes que vous avez très justement remis sur le tapis lors de votre exposé, mais on n'a pas de certitude absolue.
C'est comme en France, hein. Le système est celui de l'intime conviction devant la cour d'assises.
Tout à fait, sauf que l'intime conviction n'est pas une forme de eureka ou de lumière magique. L'intime conviction, c'est en fait une résultante ou de preuve, qui n'est pas le cas ici, ou de présomption, c'est-à-dire une forme de faisceau de rayons lumineux qui vont tous dans la même direction et qui éclairent la coupable.
Tout de même, moi je me dis que si elle avait tué Else Van Doren avec un revolver, qu'elle serait allée acheter la veille, ce qui constituerait la préméditation, je suis convaincu qu'elle aurait pris moins de 30 ans.
Oui, j'en suis convaincu aussi. Moi j'aurais imaginé, ma longue expérience d'assise, 15-20 ans, en considérant son jeune âge et le caractère très troublé de cette relation triangulaire.
C'est donc bien le caractère spectaculaire de cette chute vertigineuse qui fout la trouille à tout le monde, et moi le premier, et je pense à tous ceux qui nous ont écoutés, qui amène les jurés probablement à la condamner plus qu'ils ne l'auraient fait pour un coup de revolver.
Oui, en sachant effectivement que rétrospectivement, l'idée de cette conscience tout à coup filmée à l'époque en direct puis rediffusée, que la mort est au sol, c'est manifestement quelque chose qui a dû marquer très fort les jurés. Il faut savoir qu'en Belgique, une grosse différence par rapport à la France, c'est que les jurés décident tout seuls, donc ils sont 12. Depuis quelques années, les magistrats sont présents, mais ne sont que des soutiens logistiques. Et donc, il faut qu'il y ait plus de 7 jurés sur 12 pour qu'il y ait culpabilité.
Vous voulez dire qu'en France, les présidents de cours d'assises influenceraient les jurés?
Ça, j'en suis convaincu.
Oui, moi aussi. Mais en revanche, vous avez noté qu'en appel, pour le coup, au moment des cours d'assises d'appel, le président et ses assesseurs ne participent pas au vote. Alors là, pour le coup, on est en appel comme en Belgique.
Oui, vous avez un avantage énorme par rapport à chez nous, c'est que vous avez un droit d'appel qui n'existe pas en Belgique.
Pas du tout.
Pas du tout. Donc il reste une perspective, mais très très limitée, c'est la cassation.
Oui.
J'en ai déjà eu, où j'ai eu des perpétuités qui sont devenues 10 ans, donc ça prouve que c'est une forme d'appel indirect, mais il faut un vice de procédure, sinon ça marche pas.
Et ça marche rarement. Les experts psychiatres, ils disent qu'elle est incapable, Els Klotmans, de ressentir des sentiments pour les autres. On n'est pas loin d'une psychopathe, alors.
Oui, c'est effectivement le type de délinquance le plus compliqué à traiter, puisque les experts psychiatres se disent eux-mêmes totalement incapables de soigner des psychopathes comme ils pourraient soigner des schizophrènes ou d'autres pathologies. Et donc c'est cette absence d'empathie totale est quelque chose de problématique parce que ça joue bien évidemment sur le risque de récidive. Ici, c'est tellement particulier que, à mon avis, ce risque est totalement nul.
Alors, j'ai été très surpris d'apprendre qu'en Belgique, on a recours au détecteur de mensonges.
Oui, donc c'est en fait une arme facultative. Donc c'est une suggestion ou une proposition du juge ou parfois des gens qui sont suspectés, des accusés, etc. C'est une influence en fait du droit canadien. Au début d'ailleurs, quand on a commencé à utiliser des détecteurs de mensonges et la plupart du temps, les présidents de cour d'assises disent que c'est un élément d'indication mais on ne peut pas condamner ou acquitter sur cette base-là, on avait besoin d'un technicien qui venait spécialement du Québec parce que nous n'avions personne qui était capable de décrypter et de faire fonctionner ce détecteur.
C'est utilisé couramment ?
C'est utilisé souvent. Je dirais que moi, dans ma culture, je m'y oppose. Parce que je crois qu'il y a tellement d'autres raisons de mentir que de falsifier la vérité. Je trouve ça très dangereux.
Donc, vous êtes sur la même ligne que l'avocat qui dit, comme ce n'est pas une preuve qui est vraiment retenue devant le tribunal, alors faisons-en l'économie.
Oui, tout à fait. Je crois que, bon, ici, bien évidemment, avec deux autres coupables potentiels, c'est très dur, avec deux détecteurs qui sont totalement négatifs quant à une culpabilité et quelqu'un qui refuse d'y participer, ça pèse très lourd, même si ça ne devait pas peser lourd en soi.
Le détecteur de mensonges, qui est-ce qu'il manipule alors si c'est plus les Québécois?
On a formé quelques policiers techniciens spécialisés en la matière. Et donc c'est assez étrange parce qu'au départ on vous pose des questions de test sans grand intérêt sur le nom de vos grands-parents, des machins comme ça, et alors on rentre tout doucement dans le vif du sujet, donc c'est pas un clash direct entre êtes-vous coupable ou non.
Est-ce que c'est fiable, à votre avis?
Moi j'y crois pas. Et vous avez beaucoup d'études, il y a eu beaucoup d'études américaines, ça s'est utilisé même dans le monde du travail pour sélectionner des cadres fiables ou non, et il y a eu beaucoup de cas d'erreurs judiciaires qui auraient pu se faire sur base d'un simple jugement du détecteur de mensonges.
C'est étonnant hein, que la France y soit jamais passée.
Oui, c'est peut-être pas plus mal. Hein.
À votre avis, c'est pas plus mal?
Moi, à mon avis, c'est pas plus mal.
Je vous remercie infiniment, Maître Pierre Chaumet du barreau de Bruxelles, d'avoir accepté de commenter cette incroyable histoire. Je voudrais ici vous supplier de bien vouloir nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes mou du genou à nous follower sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors allez-y, on a des comptes, on de la traconte partout. Et c'est notre équipe qui gère ce compte. Moi, je ne gère que mes comptes à moi.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.